Vous vous souvenez que nous avons déjà, dans le début de cette pandémie, lorsque l'on a vu qu'il y avait une démobilisation et une absence marquée des travailleurs de la santé pour toutes sortes de bonnes raisons, la fatigue, le burn-out, le manque de personnel de façon générale, des gens qui étaient malades aussi. Et nous avons fait appel à l'armée. Le premier ministre du Canada a répondu à l'appel, évidemment, du premier ministre du Québec en cette matière. Et effectivement, il y a eu des troupes qui sont venues aider dans certains CHSLD, évidemment, après avoir subi une certaine formation. Et voilà qu'aujourd'hui, on apprend que les deux tiers des 10 000 réservistes mobilisés, et ça a coûté 200 millions de dollars auprès de l'armée canadienne pour affronter la COVID, sont restés dans le confort de leur foyer. Écrit comme ça, ça fait paresseux et deux pieds sur le pouf, mais c'est pas tout à fait, j'ai l'impression, la réalité. C'est qu'ils étaient chez eux, mis en disponibilité et prêts à répondre sur appel. On va tenter de comprendre ce qui s'est passé, comment ça fonctionne. M. Rémi Landry est lieutenant-colonel à la retraite des Forces armées canadiennes et professeur associé à l'Université de Sherbrooke. Bonjour, M. Landry.
Bonjour, M. Mongrain.
Vous enseignez dans mon alma mater, l'Université de Sherbrooke.
Effectivement, une belle université. C'est un environnement que j'ai trouvé, là, ayant travaillé à McGill et à Montréal, qui est sans doute le meilleur pour moi, en tout cas, du côté de l'École de politique appliquée. Il y a une synergie entre les professeurs qui est fantastique. C'est un environnement qui est sain. Et puis, je pense que les étudiants qui ont traversé Sherbrooke ou qui y sont présentement sont du même avis.
Moi, vous ne pouvez pas me convertir à autre chose. Je suis déjà engagé à l'Université de Sherbrooke comme ancien. Et en surplus, mon épouse a été présidente, première femme présidente du conseil d'administration de l'Université de Sherbrooke. Ma fille a fait son cours de droit à l'Université de Sherbrooke. Moi, je suis tatoué à Sherbrooke. Là.
Mon premier bac vient de l'Université de Sherbrooke et date de 1973. Donc, moi aussi, je suis peut-être pas tatoué autant que vous, mais... brûlé.
Rémi Landry, comme lieutenant-colonel, maintenant retraité des Forces armées canadiennes, vous allez nous expliquer dans un premier temps, parce qu'on ne connaît pas tout ça, nous autres, là. Qu'est-ce qu'un réserviste comparativement à un gars de l'armée régulière?
Un réserviste, c'est avant tout quelqu'un qui a deux emplois. Quelqu'un qui a un emploi civil et puis qui décide éventuellement, pour des raisons personnelles, de joindre les Forces armées canadiennes, mais à temps partiel. Donc, c'est quelqu'un qui, au cours d'une année, en temps normal, va probablement être disponible pour un peu plus de 120 jours pour les Forces armées canadiennes, soit par des entraînements le mardi soir, des entraînements de fin de semaine, et puis surtout aussi par un entraînement peut-être un peu plus intensif durant la période estivale, toujours selon ses disponibilités et selon son emploi. Et puis, à l'intérieur de cette grande famille-là des réservistes, il faut compter nos Rangers, okay, qui sont un peu plus de 5000, là, qui ont un contrat spécial différent. Mais dans les réservistes, on a ce qu'on appelle trois classes d'emploi. Autrement dit, on a des gens qui sont employés et payés à la journée, ce qu'on appelle des classes A. Il y a des gens qui sont employés en classe B pour de courtes périodes de temps, pour des remplacements. Et puis, il y a des gens qui ont un statut de classe C qui remplissent un emploi un peu plus permanent et puis éventuellement qui ont les mêmes conditions que les gens de la régulière. Bon. Et puis, ce qu'on parle ici, c'était des gens à qui on a donné un contrat de classe C, donc un salaire équivalent selon leur grade à ceux des militaires qu'on dit réguliers.
Dans ce 200 millions-là, c'est des classes C qui ont été rémunérés en attente et sur appel.
C'est en plein ça.
OK. Ça veut dire que, est-ce que c'est le même salaire qu'un régulier?
Le même salaire qu'un régulier. Avec ce qui s'est passé dans les dernières années, il était évident, je veux dire, qu'il fallait que nos réservistes qui étaient en classe C aient le même traitement qu'un régulier, parce que pour toute fin pratique, ils sont à temps plein. Et puis, ils répondent aux mêmes exigences que les réguliers, ce qui n'est pas nécessairement le cas avec le classe A et le classe B.
OK. Maintenant, c'est-tu des classes A, des classes B ou des classes C qui, admettons, seraient appelés à servir sous les drapeaux pour une mission de guerre ou maintien de paix? Est-ce qu'on va fouiller dans l'ensemble ou si on prend les réguliers en premier, puis si on a des besoins supplémentaires, on y va par catégorie de réservistes?
Depuis plusieurs années, je pense, avec l'Afghanistan, entre autres, je vous dirais qu'il y a entre 15 à 20 % des effectifs qui sont déployés à l'étranger. qui proviennent de la réserve. Donc, ce sont des gens qui, éventuellement, on leur offre des contrats de classe C pour une période qui est beaucoup plus longue. Donc, une période qui couvre le pré-déploiement qui peut varier entre peut-être 12 mois, okay. un peu moins de 12 mois, okay. et éventuellement le déploiement pour la mission là, qui dépend, là, qui peut être entre 6, 9, 9 mois.
OK. Alors, c'est des vrais soldats.
Oui, c'est des soldats. Il faut que ce soit clair dans l'esprit des gens que tous ceux qui ont été mis en classe C, c'est des gens qui étaient qualifiés dans leur métier. Donc, comme vous le savez, ça représente à peu près, ça dépend des unités, là, mais en temps normal, on retrouve à peu près le 1/5 à le 1/4 des effectifs miliciens okay. qui ont leur entraînement de complété selon leur métier.
Bon, parlons, M. Landry, maintenant de la situation qui nous occupe, qui nous amène à parler de réservistes et des forces. Le gouvernement appelle en soutien des réservistes ou des militaires. Nous autres, quand ils ont fait la demande, là, on n'avait pas fait la distinction, les gens qui ne sont pas dans la carrière. On appelle l'armée, c'est l'armée, pour venir en aide et soutenir le réseau de santé qui est en difficulté. Comment ça se négocie? Comment ça se fait? L'armée a son budget, puis ils disent, bon, on va vous envoyer une facture de temps parce qu'on va mettre tant de gens en disponibilité. Ou si il y a déjà une entente de service sur appel?
Bon, dans un premier temps, je veux juste clarifier, lorsqu'on parle de l'armée, de réservistes, on parle des trois éléments, des forces terrestres, de la marine royale et de l'aviation royale. Okay. Bon, pour répondre à votre question, oui, il y a déjà des ententes préétablies, mais chaque opération a ses particularités et puis finalement, c'est à la fin de la mission qu'il y a une facture qui est envoyée au gouvernement et puis des fois qui va aux provinces aussi, dépendant de la nature
de la demande.
Et puis, il faut réaliser aussi que le concept de l'emploi des forces armées, c'est les forces armées réalisent qu'elles sont le dernier recours. Donc, okay. ne peuvent pas se permettre de ne pas être à la hauteur de la tâche. Donc, lorsque il y a
des demandes des
naturelles, ouais. ben, souvent, je veux dire, les militaires vont, d'une certaine façon, être dans les premiers ou du moins définitivement être en état d'alerte pour pouvoir répondre à ce besoin-là. On le voit actuellement avec les forces principalement de l'aviation royale qui ont été mis au service des incendies en Colombie-Britannique. Donc, ce que ça laisse sous-entendre, c'est que éventuellement, il y a un besoin d'être prêt. À chaque année au printemps, les forces armées canadiennes sont toujours en état d'alerte en ce qui concerne les inondations, entre autres. Donc, okay. il y a un mécanisme qui va éventuellement, selon l'interprétation de la situation puis des contacts qu'on maintient avec, que les forces maintiennent avec la sécurité publique et civile, vont éventuellement amener leurs troupes en état d'alerte. Parce okay. qu'il faut comprendre que les militaires, ils sont pas toujours à côté d'un lieu de catastrophe.
Ben non, je comprends ça. Là. Il faut déployer ce monde-là.
L'individu, à l'intérieur de 24 heures, de 12 heures, de 6 heures, il y a une préparation. Donc, tous les réservistes qui étaient en service pour la pandémie étaient dans un état d'alerte de 96 heures. Donc, autrement dit, on parle à peu près 4 jours que ces gens-là devaient
être disponibles.
C'est ça.
Dites-moi, M. Landry, dans d'autres domaines, quand on est en attente, qu'on est en mise en disponibilité, c'est pas le même tarif que quand on est actif. Est-ce que 200 millions, c'est une facture normale et raisonnable si vous parlez de d'autres cas que celui de la COVID? Parce qu'on est passé à l'urgence dans la COVID, parce qu'effectivement, on était tous en culotte courte là, dans le réseau de la santé. C'était pas évident, on reviendra pas là-dessus. Mais si je me mets en disponibilité, je sais pas moi, à 10$ de l'heure, j'attends chez nous, puis au moment où je suis appelé, admettons, je passe à 20$ de l'heure. Ça, je comprendrais ça. Mais c'est-tu le même tarif, travail, travaille pas?
Bon, dans un premier temps, il faut dire que travail, travaille pas, c'est pas quelque chose qui, éventuellement, était présent pour ces miliciens-là.
OK.
Pour ces réservistes-là. Oui. Dans un premier temps, je vous mentionnais tout à l'heure que ces gens-là ont des emplois.
OK.
OK. Donc, si on veut avoir des gens disponibles à 96 heures, on ne peut pas se permettre que ces gens-là, je veux dire, soient déjà en train de travailler quelque part, je veux dire, et puis éventuellement se revire de bord pour dire on va y aller. Donc, le contrat qui a été signé par ces gens-là, c'est de dire, bon, ben, vous êtes en disponibilité classée pour les 5 prochains mois. Parce qu'en même temps aussi, c'est difficile.
Vous lâchez votre job régulière.
Ben, c'est ça. C'est difficile d'engager quelqu'un puis de lui dire, bon, ben, on a peut-être un contrat de 5 mois, mais dépendant de la situation, on va peut-être te réduire ça à 1 mois ou 2 mois. Ça fait que donc, il fallait être en mesure d'avoir un contrat qui était gagnant-gagnant. Et puis, le fait de dire que c'est pas la majorité de ces gens-là qui ont servi avec besoin pour la pandémie, ça ne veut pas dire que ces gens-là restaient chez eux à attendre à côté du téléphone. Il y a des entraînements qui se faisaient, il y a des entraînements virtuels qui se sont faits.
Des formations.
Des formations, exactement. La même chose aussi au niveau de leurs unités, parce que là, vous avez tout du jour au lendemain X nombre d'individus qui sont disponibles à temps plein. Et puis, vous avez des tâches à accomplir à votre unité de réserviste. Et puis, ces gens-là, certains d'entre eux ont été rappelés pour pouvoir travailler au niveau de leur classe. Et puis, en même temps aussi, il y avait toute la question de faire face aux opérations, aux catastrophes naturelles. On sait qu'à chaque printemps, c'est tout le temps la même situation. Il y a des inondations.
C'est sur le même contrat. Ils sont en disponibilité.
On voit sur plusieurs niveaux, là.
OK, parfait. Monsieur
Landry, il y avait la pandémie, il y avait éventuellement toute la question des catastrophes naturelles. Et puis, en même temps aussi, il y avait ce besoin-là de maintenir nos effectifs. Depuis 2019, on est en manque d'effectifs, tant au niveau de la régulière qu'au niveau de la réserve. Donc, c'est un autre moyen de pouvoir maintenir ces effectifs-là en étant conscient que lors de la pandémie, il y a beaucoup d'activités qui ont été réduites. Il y a des entraînements qui ne pouvaient plus se faire à cause éventuellement des besoins de distanciation.
Les militaires n'étaient pas à l'abri de la COVID non plus parce qu'ils étaient militaires. Ils devaient prendre des mesures
également. Vous avouez aussi que certains nombres d'entre eux l'ont eu, la pandémie. Ont eu la COVID-19. Oui. Donc, c'est une question d'équilibre. C'est une question de se dire, bon, ben, on doit maintenir une capacité opérationnelle.
C'est le prix à payer pour pouvoir se fier aux forces armées et à la réserve.
Et puis en plus aussi, il y a un besoin à l'étranger. Là. On ne sait pas de quelle façon que la COVID va affecter nos militaires réguliers. Et puis en même temps, on doit maintenir tout près de 2000 personnes à l'étranger. Ces personnes-là à l'étranger, ils ne sont pas là indéfiniment. Il faut qu'il y ait une montée en puissance. Il faut qu'on prépare d'autres gens pour aller les remplacer. Et puis, compte tenu de la pandémie, ben, cette préparation-là, je veux dire, c'est pas fait normalement. Il y a des entraînements qui ont été cancellés. Il a fallu se préparer différemment. Donc, quand vous mettez ça tout ensemble, moi, ce que je dis, c'est que c'était gagnant-gagnant pour tout le monde.
Je comprends.
On était en mesure de dire au Canada, bon, ben, on ne sait pas exactement qu'est-ce qui va arriver, mais on va faire en être possible pour pouvoir éventuellement répondre aux besoins et aux urgences.
Rémi Landry, lieutenant-colonel à la retraite des Forces armées canadiennes et professeur associé à l'Université de Sherbrooke, merci beaucoup de nous avoir donné cet éclairage, nous qui sommes des néophytes dans le domaine. Et quand on voit une facture de 200 millions pour du monde qui reste chez eux, on se dit, mon Dieu, on aurait pu couper ça, mais ce n'est pas le cas. Merci beaucoup.
C'est moi qui vous remercie, M. Mongrain. Au revoir.
Au revoir. On s'arrête pour une pause.